Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et nous retrouvons tout de suite notre sélection d'été. Revue de presse maltaise, vie pratique, trucs et astuces pour mieux s'intégrer. À Malte, une web radio diffuse des programmes d'information en plusieurs langues pour créer un pont entre les Maltais souvent hostiles et les migrants. Après un voyage long et périlleux jusqu'en Europe, le fondateur de cette radio, Ahmed Nour Ibrahim, raconte le centre de rétention fermé très redouté, la difficulté de l'intégration et la détresse des migrants qui se retrouvent bloqués sans perspective sur cette île de 316 km². Il a ouvert les portes du studio de Voice of Migrants à Mathilde Auvillain à La Valette.
Au cœur du quartier Il Amroun, en périphérie de La Valette, Ahmed Nour Ibrahim nous ouvre la porte de son petit local. Son bureau est couvert de dossiers de presse, de micros. Voilà donc le studio radio où, avec son équipe de journalistes migrants, il enregistre les programmes d'information sur Malte et la vie de réfugiés sur l'île.
J'aime mon métier de journaliste. J'ai commencé à 15 ans pour une radio locale de Mogadiscio comme présentateur d'un programme pour enfants. Et encore aujourd'hui, c'est le métier que je veux faire.
Et pourtant, c'est cette passion devenue un métier qui a contraint Ahmed à fuir son pays.
En Somalie, je travaillais pour différentes antennes comme correspondant. Pour faire des reportages sur les droits de l'homme et les combats entre tribus rivales, je devais parler avec beaucoup de monde pour obtenir des informations. Alors j'ai reçu des menaces des Chebabs. Les Chebabs ont exécuté 18 de mes confrères journalistes. C'est pour cela que j'ai décidé de partir.
Au départ, il ne voulait pas venir en Europe, juste se réfugier en lieu sûr, mais entrer illégalement en Éthiopie, il risquait d'être arrêté pour espionnage. Alors un ami lui conseilla de le suivre à travers le désert. Ahmed raconte son voyage cauchemardesque à travers le Soudan, la Libye. Il raconte son destin suspendu aux trafiquants d'êtres humains, à une boussole et à un téléphone satellitaire en pleine Méditerranée, avant d'être finalement secouru fin août 2013 par la marine maltaise.
Quand nous sommes arrivés à Malte, ils nous ont mis en ligne, passé les menottes et ils nous ont emmenés à la police des frontières. Ils ont pris nos empreintes et mis en prison. J'étais choqué. Les gens aux fenêtres nous disaient « Ne venez pas, c'est une prison, nous sommes là depuis 18 mois ». Vraiment, j'étais choqué. Je ne pensais pas que dans un pays sûr, je me retrouverais en prison. Je pensais que j'aurais la liberté, une vie meilleure, que je serais en sécurité.
Pendant sa détention, il ne peut pas contacter sa famille, sa mère le croit mort en mer, mais après 5 mois, il parvient finalement à obtenir l'asile politique, plus décidé que jamais à renouer avec son métier.
Quand j'ai retrouvé ma liberté, j'avais vraiment l'espoir de pouvoir reprendre mon métier de journaliste, pour parler aux migrants, pour faire parler les migrants.
Mais le profil d'Ahmed n'intéresse pas les médias locaux. C'est donc finalement grâce à un journaliste britannique installé à Malte qu'il va fonder une web radio pour les migrants.
Les migrants africains ont des difficultés parce qu'ils ne parlent pas maltais et parfois pas anglais. Cela crée une barrière de communication qui empêche d'entrer en contact avec la population locale, d'accéder à des sources directes d'informations sur ce qui se passe à Malte et dans leur pays d'origine. Nous essayons donc de combler ce manque.
Un parcours du combattant. La famille d'Ahmed a certes pu le rejoindre à Malte, mais chaque jour, comme tous les migrants africains sur l'île, il subit des discriminations qu'il tente d'exorciser grâce à la radio.
Être un réfugié ou un migrant, c'est vraiment dur. Je ne suis pas heureux d'être un réfugié. Je dis à ceux qui veulent traverser le désert, la mer, si vous le pouvez, ne soyez pas réfugié. Votre pays est mieux. Il n'y a rien de mieux qu'être à la maison.
Je m'appelle Drissa, je suis malien. La communauté africaine à Malte organise une marche dans le cadre de notre droit pour les protestations. À partir de 9h, il est demandé à tous les Africains de Malte d'être présents. À bon attendeur, salut, merci.
Malte, île de 316 km² et 430 000 habitants, a accueilli 20 000 migrants et réfugiés ces 10 dernières années. Une fois arrivés, ils ne peuvent plus en repartir. Aujourd'hui, le flux s'est tari et déplacé vers l'Italie.
Il y a des fils de parrains qui se produisent à la télé, il y en a d'autres qui font l'objet de biopics. Le film sur Arkan, ce criminel de guerre serbe, chef de la milice des Tigres durant la première guerre des Balkans, devrait être tourné aux États-Unis avec, dans le rôle de Milošević, rien moins que Robert De Niro. Mais on cherche encore l'acteur idéal pour incarner Arkan. Les comédiens serbes font des pieds et des mains pour arracher le rôle-titre, ce qui en dit long sur la société serbe, Laurent Gélin.
Criminel de guerre, chef de milice, député et patron d'un club de football, Jelko Rajnatović, dit Arkan, symbolise à lui seul l'éclatement sanglant de la Yougoslavie et la dérive mafieuse de la Serbie des années 90. Pour les victimes des guerres de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, difficile donc de s'enthousiasmer pour le biopic hollywoodien qui pourrait être prochainement tourné avec Robert De Niro dans le rôle du défunt président serbe, Slobodan Milošević. En Serbie, au contraire, les candidats ne manquent pas pour interpréter Arkan. À Belgrade, le principal débat est en effet de savoir qui aura les épaules assez larges pour donner la réplique à l'actrice américaine Eva Mendes, qui devrait jouer Tsetsa, veuve du criminel et chanteuse la plus célèbre de la région. « Je suis très touché que quelqu'un pense que je pourrais jouer un tel homme, un homme fort, au caractère et au tempérament bien trempé », expliquait ainsi récemment l'acteur Vuk Kostić. Arkan semble donc de nouveau faire partie d'un passé acceptable et son image est en train de se refaire une jeunesse dans l'imaginaire national. Un phénomène qui se nourrit certainement des discours nationalistes, des hommes politiques au pouvoir, alors que les relations de la Serbie avec ses voisins, notamment avec la Croatie, se sont dégradées ces derniers mois. Au fond, peu importe quel acteur endossera le costume du milicien Arkan, l'essentiel serait plutôt de savoir sous quel jour il convient de le présenter, celui d'un héros national serbe ou celui d'un meurtrier inculpé par le Tribunal pénal international.
Nous partons très loin dans l'océan Indien, alors que c'est encore l'Europe. Et oui, depuis 2 ans, Mayotte est un département français, un lointain département, certes, mais qui peut prétendre aux aides de la politique agricole commune. Mais dans une île où la taille des exploitations atteint à peine le demi-hectare, la modernisation d'une agriculture très vivrière ne va pas de soi. À quoi un village du Nord-Ouest, un groupe de vulgarisation agricole, tente de faire bouger les choses. Et c'est le reportage de Frédéric Lebel.
On commence par là. On a les papayes qui sont à maturité, donc ils ne sont pas encore tout à fait mûrs, mais si on les laisse 2 ou 3 jours, ils vont être à point pour être mangés.
C'est la foule des grands jours sur le marché d'Aqua. On vient faire ses courses, mais aussi manger sur les tables installées à l'ombre. Les locaux et les expatriés s'y pressent pour la qualité des produits, comme Christina.
On privilégie beaucoup les produits maorais. Parce qu'en fait, ils utilisent très peu de produits chimiques, très peu d'engrais par rapport, par exemple, à tout ce qui est produit. Les grands Comoriens nous parlent de chez eux. Ils utilisent plus de produits au Madagascar qu'ici à Mayotte. À ce qu'on dit, ils n'utilisent pratiquement pas de produits. Surtout les bananes, par exemple. Les bananes, elles ne sont pas traitées, les bananes, du tout. Et elles sont d'une très très bonne qualité. Même les grands Comoriens elles reconnaissent qu'elles sont bien meilleures que chez eux.
Chaque deuxième dimanche du mois, le marché semi-couvert retrouve donc de sa superbe. Pendant des années, il avait été laissé à l'abandon. Et les agriculteurs du coin avaient opté pour le système D.
Chacun vendait un peu comme il peut. Sur les bords des routes, à côté de chez soi. Il n'y avait pas une véritable organisation. Et donc, ils se sont organisés pour justement utiliser le marché et pour voir, essayer de chercher un débouché. Donc, nous, on a la possibilité, justement, le marché, là, de commercialiser. Les gens ont la possibilité de faire des commandes. On lance des fois et par Internet, on diffuse les disponibles de produits en telle quantité qu'on a. Et puis, les gens peuvent appeler, les gens peuvent laisser des messages. Et on n'a pas de véhicule de transport pour livrer. Mais on se débattue comme on peut pour livrer aux gens. Puis c'est pour montrer qu'on veut faire Si les gens nous aident, ça nous incite à en faire un peu plus.
C'est Antoumani Abou qui est à l'origine de cette démarche. À la tête du groupe de vulgarisation agricole, il voudrait aussi professionnaliser les exploitations. Ce dimanche-là, il emmène même un petit groupe de naturalistes visiter le champ d'un producteur d'ananas.
Il y a de la chaleur, il y a de l'eau. La terre, si on le protège comme il faut, ça donne comme il faut. Ce qui manque à Mayotte, c'est l'organisation. Après, je pense que les autres paramètres suivront.
Et dans vos rêves, vous voyez quoi ?
Bah, une organisation collective parfaite. Ouais, j'arrive. Tout droit.
1h30 de marche plus tard, à travers des sentiers escarpés dans la forêt, nous arrivons en surplomb du champ d'ananas.
Zé Payetou ! Abé ! Zé Dutou ! Ananabi ! Ah, ok. On va descendre un petit peu. Et puis on va descendre rejoindre Chadeli.
Parmi les visiteurs, il y a Dominique Didelot de la direction de l'agriculture. À Mayotte, on cultive souvent plusieurs fruits et légumes sur la même parcelle. C'est ce qu'on appelle le jardin mahorais.
C'est typiquement le principe de l'agroécologie, ça. L'agroécologie, c'est aussi l'agroforesterie ici, c'est-à-dire garder des grands arbres, des manguiers qui vont donner des fruits. En dessous, vous avez les bananiers ou les pommes cannelles. En dessous, vous avez les ambrevades, les maniocs, et puis même de l'ananas ou même une plante de couverture, type patate douce ou autre. Et donc, sur 4-5 étages, vous produisez autant que... Et en général, en agroforesterie, on dit qu'on produit 40% de plus qu'en agriculture traditionnelle. Comme on dit chez nous, les radis aiment les tomates parce que les radis vont émettre dans le sol ou dans l'air certaines substances qui éloignent tel insecte, etc. Donc eux, ils l'ont trouvé aussi tout à fait naturellement.
On a 9 ou 10 pour 10 mètres carrés, non ?
Dans son champ à flanc de colline, sans aucune machine, Osemou sait bien qu'il aurait le droit à une aide européenne, mais c'est encore très abstrait, nous explique-t-il dans la langue locale, le chimaoré.
J'ai bel et bien entendu, mais je ne vois pas comment moi je peux faire pour avoir les aides qu'il faut, comment faire pour où aller demander les subventions, etc.
Vous avez fait aucune démarche ?
Non, pas encore. J'aurais aimé le faire, mais via avec le groupement des agriculteurs.
Remplir tous les dossiers administratifs, surtout en français, c'est presque une mission impossible, mais il pourra compter sur l'aide du groupement de vulgarisation agricole. Et ce n'est pas là le seul obstacle aux aides européennes. À Mayotte, on ne recense que 23% d'exploitants qui possèdent un titre de propriété. Pour Dominique Didelot, qui a travaillé pendant un an sur la préparation aux aides européennes, on s'oriente vers un vrai casse-tête.
Ici, on a une tradition forte d'indivision déjà, c'est-à-dire mettre en propriété ou en bail des terres, c'est difficilement compréhensible pour eux, parce qu'en général, la terre appartient à la famille, appartient au clan, etc. Et confier un bout de terrain à un des enfants, c'est enlever la possibilité aux autres enfants d'y accéder, c'est très mal vu ici à Mayotte. Hein. On est embêté parce que les aides agricoles sont données à des gens s'ils peuvent prouver soit la propriété de leur terrain, soit le bail, etc. Sinon, ils n'ont pas d'aide à la modernisation.
À quoi Antoumani Abou, lui, construit son projet lentement, mais sûrement, grâce aux aides européennes. Il compte installer bientôt un bureau et des chambres froides au fond du marché.
Jeunes européennes.
Mais qui a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Voilà, avec une jeune européenne aujourd'hui. Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors, une enquête lancée ces jours-ci vous met en joie.
Imaginez-vous, une quinzaine de médias s'intéressent à la jeunesse européenne à grande échelle. Mieux, ils veulent carrément dresser le portrait sur Internet. Près de 100 millions d'internautes européens entre 18 et 34 ans sont invités à se prononcer sur ce qu'ils pensent du monde, des autres et d'eux-mêmes. En tout, ils peuvent répondre à 149 questions posées en 9 langues dans 12 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et par exemple la République tchèque.
Alors c'est un véritable chantier, Eve.
Un chantier qui fait suite à une première étude proposée il y a 3 ans. C'était France Télévisions qui avait pris cette initiative à l'échelle française cette fois et qui avait rencontré un véritable succès. La force de ce genre d'initiative, c'est de donner la parole aux jeunes qui souhaitent l'apprendre en parlant leur langue, celle d'Internet, un média qui se prête finalement assez bien à l'expression de l'intime.
Et alors, quelles sont les questions qui leur sont posées?
Réseaux sociaux, couple, sexe, repli, identitaire ou partage, vie professionnelle, futur, loisirs, rien n'est épargné. Les jeunes Européens peuvent-ils vivre sans Internet, sans alcool? Que pensent-ils du rapport homme-femme aujourd'hui? Tous les résultats sont mis en ligne et en images, en valeur, en tout cas sur le site Internet de l'enquête avec de jolies infographies, agréables à déchiffrer. Une poignée de jeunes a même accepté de répondre face caméra, ce qui débouchera plus tard sur la diffusion d'un film documentaire que l'on peut déjà retrouver par petite vidéo de quelques minutes sur le site de l'enquête et la plateforme vidéo YouTube. Voici un extrait de leur réponse à une question posée sur leur confiance en l'avenir.
Faut surtout pas être pessimiste.
Faut pas être naïf non plus, mais bon, pas trop optimiste quoi.
You have to be, or else it drags you down.
Yeah.
Hopeful enthusiasm.
I think I'm more overwording.
Yeah. Yeah. We're direct accord.
Yeah.
Parce qu'il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je sors des banalités parfois.
Voilà, donc un extrait souriant de l'enquête Génération What. D'autres résultats, Eve ?
Oui, sur le travail. Par exemple, quand on leur demande à quoi sert le travail, on constate une nette séparation. Au nord et à l'est de l'Europe, les jeunes répondent davantage que c'est un moyen de gagner de l'argent, tandis qu'au sud et à l'ouest, les jeunes mettent en avant le rôle épanouissant qu'ils attendent de leur activité professionnelle. Et quand on leur demande si l'on peut être heureux sans travailler cette fois, ils répondent unanimement non. De quoi remettre en question la réputation de jeunes flemmards qu'ils traînent auprès de leurs aînés. Tous les résultats à retrouver sur Génération Watt.
Voilà, Eve Minot qui n'est pas une flemmarde. Et donc, on retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas?
Avec plaisir.
Et en attendant, si vous voulez en savoir un peu plus ou répondre à ce fameux questionnaire, rendez-vous sur generationwatt.com.
Üşküdar'a giderken aldıda bir yağmur Katibimin satrazi uzun etey camur Katibimin satrazi uzun etey camur.
L'Institut de la langue turque est-il un consistoire de vieux messieurs partageant une piètre opinion du sexe féminin? C'est ce que l'on pourrait croire au vu d'une série de mini-scandales qui agitent cette vénérable institution et son non moins sérieux dictionnaire. L'Institut est épinglé pour certaines définitions édifiantes de sexisme et de misogynie. Petit florilège avec Anne Andlauer.
Sale, adjectif, première définition, qui est couvert de taches, de poussière, etc. Deuxième définition, qui se trouve en période de menstruation, entre parenthèses, femme. Oublions un instant l'absurdité de cette dernière précision pour s'attaquer directement à l'objet du scandale. Car cette acception du mot « sale », comme ce qui caractériserait une femme en période de règles, est tirée du très respectable dictionnaire de la langue turque, disponible sur le site internet de l'Institut de la langue turque. Autant dire ce qu'il y a de plus officiel, reconnu, sérieux et autres synonymes. Ce sont des internautes qui ont repéré récemment ce flagrant délit de sexisme. Il faut dire que le TDK, petit nom de l'Institut, est un récidiviste. Cherchons par exemple le mot « musaït » qui signifie en français « convenant » ou « disponible ».« Musaït » donc, première définition, qui convient, bien. Deuxième définition, qui est prêt à flirter facilement, qui flirte facilement. Et entre parenthèses, « femme ». Toujours cette fameuse parenthèse, et toujours ces relents sexistes qui ont fait sursauter de nombreuses Turques, au point de lancer une pétition contre le TDK. Encore un, cherchons « que tu cadennes », mot à mot « mauvaise femme ». Et voici la définition « prostituée ». Tiens donc, et que signifie « mauvais homme » Selon le même dictionnaire turc, je cite « celui qui, dans les films, est antipathique aux yeux des spectateurs, affronte le héros du film et perd souvent à la fin ». Forcément, avec un tel pédigré, l'Institut de la langue turque a été prié de s'expliquer. Sa réponse, en substance, il y a dans ce dictionnaire plus de 117 000 mots, beaucoup de ces définitions ont été rédigées il y a bien longtemps, mais l'Institut ne s'oppose pas à une petite mise à jour pour lever les soupçons de sexisme. Si l'on peut se permettre une humble suggestion, commencez par l'entrée femme, c'est-à-dire en turc, kadın. Première définition, être humain de sexe féminin. Deuxième définition, et attention mesdames, alerte sexiste maximale, je cite, femme qui a les vertus et les compétences nécessaires pour la maternité ou la gestion de la maison. Ceci explique donc cela.
À la réalisation, il y avait Guillaume Munier. Restez à l'écoute de RFI. Dans un instant, les infos.
Et si le temps